VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 18h à Bamako, 19h à Abuja et à Maïdougouri. Dans 10 minutes, retrouvez le magazine Carrefour Science et Santé présenté par Camille Gros-Didier. Mais auparavant, voici notre journal. Nous ouvrons cette édition par la victoire du candidat de l'opposition, Muhammadu Buhari, aux élections présidentielles du Nigeria. Nous avons été parmi les premiers à vous annoncer que le président sortant, Goodluck Jonathan, a appelé son adversaire pour le féliciter. Nous retrouvons Anne-Louk, notre envoyée spéciale, qui est à Abuja, au siège du parti de l'opposition. Elle est intervenue dans notre édition de 17h30, temps universel.
Moi, je suis au siège de APC, le parti de Buhari. Les gens, ils font la fête, ils dansent, ils chantent. Mais je pense que tout le monde se sent un peu rassuré aussi. Le fait que Goodluck Jonathan a accepté sa défaite, ça peut-être une indication que ça va être une assurance pacifique, qu'on ne va pas avoir des contestations dans la rue, dans les tribunaux, etc.
Alors, les deux leaders s'étaient engagés, n'est-ce pas, à respecter les résultats, quels qu'ils soient. Et à demander aussi à leurs partisans de garder une tête froide.
Oui, c'est ça, oui. Ils ont signé deux accords avant l'élection. Alors, maintenant, c'est la tête.
Excusez-nous pour la très mauvaise qualité de cette interview. Les communications avec le Nigeria ne sont pas toujours évidentes. Donc cette victoire du général Buhari, c'est l'occasion pour nous de revenir également sur son parcours. Originaire de l'état de Katsina, ce général à la retraite a eu une longue carrière militaire, prenant part notamment à la guerre du Biafra. Il faisait partie des militaires menés par le général Murtala Mohamed, qui avait renversé et tué en 1966 le général Aguiyi Ironsi, dirigeant militaire autoproclamé. Il montera ensuite au premier plan en 1983 en prenant la tête du coup d'État contre le président Shehu Shagari. Pour un bilan de ce régime Buhari, Timothée Donangmai a joint Ali Buhari, aucun lien familial avec le général, professeur de sciences politiques à l'université de l'État de Nasarawa à Kefi, près d'Abuja.
Le général Buhari est un ancien dictateur qui a renversé le premier gouvernement civil de la Deuxième République du Nigeria en 1983. Il a régné pendant 18 mois seulement et il fut lui aussi renversé par le général Ibrahim Babangida. Donc, durant le parcours du général Mohamed Buhari au pouvoir, il a pu instaurer cette image d'un personnage qui voudrait vraiment laisser son nom dans l'échiquier politique africain en lançant ce qui s'appelle au Nigeria le war against indiscipline.
La guerre contre l'indiscipline. Alors comment s'est traduit concrètement cette politique?
La guerre contre l'indiscipline au Nigeria était un succès écrasant. Il a pu restaurer la discipline au sein de la population nigériane. Cela s'est traduit par la conviction et l'exécution aussi des narcotrafiquants. Sur le plan économique, le général Buhari a pu mettre son impression sur le phénomène de la corruption au Nigeria en éliminant presque quasi totalement le phénomène de corruption au sein de la vie politique nigériane. Donc, c'est quelqu'un qui peut redonner l'espoir aux Nigériens. Au moment où la corruption a atteint un niveau très élevé avec les partis au pouvoir, à savoir les PDP.
Mais c'est au plan des libertés que le bilan du général Buhari est plutôt sombre. Lui-même a dit qu'il ne peut pas changer le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce domaine?
Il est bien reconnu qu'il était un dictateur en tant que militaire. Mais maintenant, il faut savoir que le Nigeria suit un processus démocratique. Lui seul ne peut pas gouverner le Nigeria. Il y a ce qu'on appelle l'Assemblée nationale, ce qui est l'équivalent des congrès en Amérique. Donc, toutes les lois qui veulent promulguer doivent passer par le congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Donc, le phénomène des dictatures, on peut l'écarter cette fois-ci parce qu'il s'est converti en démocrate, donc il va gouverner le pays avec un moyen peu tendre, mais en restant tout fermement opposé à la corruption.
Le professeur de sciences politiques à l'Université de l'État de Nassarawa, Ali Bouhari, au micro de Timothée Donangmaï. Suite de nos actualités africaines, le Comité international de la Croix-Rouge a décidé de suspendre ses déplacements dans le nord du Mali au lendemain de la mort d'un de ses employés dans une attaque qui a fait également un blessé. Essia Kaba.
Abou Walid Sahraoui, du Mouvement pour l'Unicité et le Djihad en Afrique de l'Ouest, Moujao, a revendiqué l'attaque dans un bref entretien téléphonique avec un journaliste de l'AFP à Bamako. Joint par VOA Afrique, Valérie Mbaounana, porte-parole du CICR au Mali, a indiqué que l'organisation humanitaire suspendait tous ses mouvements dans le nord du Mali dans l'attente de clarifier les circonstances de cette attaque et de prendre les mesures qui s'imposent. En revanche, les activités dans les centres urbains restent opérationnelles. L'attaque a eu lieu entre Gao et Ansongo et visait un camion du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, qui devait rejoindre Niamey au Niger pour apporter du matériel médical pour l'hôpital de Gao. En février 2014, 5 humanitaires maliens, dont 4 membres du CICR, avaient été enlevés alors qu'ils reliaient Kidal à Gao, leur base. Leur rapt avait été revendiqué par le Moujao. Pour mémoire, le Moujao est un des groupes alliés d'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui ont contrôlé le nord du Mali pendant près de 10 mois entre 2012 et début 2013.
Et Mali toujours, Amadou Toumani Touré, ancien président du Mali, témoin dans l'enquête française sur un présumé financement libyen en faveur de l'ex-chef d'État de l'État chef de l'État français Nicolas Sarkozy. D'après son entourage cité par l'AFP, ATT a été auditionné aujourd'hui à Dakar. Exilé dans la capitale sénégalaise depuis son renversement en avril 2012, il avait été convoqué par la police judiciaire sénégalaise dans le cadre d'une commission rogatoire française. En Ouganda, à Kampala, les funérailles de Joan Kagezi auront lieu demain. La procureure en charge du procès des attentats de Kampala en 2010 a été abattue lundi soir. Nicolas Pinault.
Les assassins de Joan Kagezi ne lui ont laissé aucune chance. Des individus à moto ont suivi lundi soir la directrice adjointe du ministère public ougandais et l'ont abattue froidement dans son véhicule. Ses 3 enfants qui étaient à bord n'ont pas été blessés. C'est ce qu'a expliqué le chef de la police ougandaise, Kale Kayihura, dans un communiqué. Madame Kagezi était au cœur du procès de l'année dans la capitale ougandaise, celui de 13 hommes accusés d'avoir participé aux attentats de 2010 à Kampala, qui avaient fait 76 morts. Ces attaques avaient été à l'époque revendiquées par le groupe somalien Shabab. Ce procès a été suspendu ce mardi. Younoussou Kassirivou, un avocat de la défense, a indiqué que ses confrères et lui s'entretiendraient avec le juge ce mardi pour décider de la suite du procès. Les accusés, 7 Kenyans, 5 Ougandais et un Tanzanien, sont tous inculpés de nombreux chefs, notamment actes de terrorisme et meurtres. Tous, sauf un, sont également inculpés pour appartenance à une organisation terroriste. Souvenez-vous, le 11 juillet 2010 à Kampala, 2 kamikazes avaient déclenché leur ceinture d'explosifs dans 2 établissements qui retransmettaient la finale de la Coupe du Monde de football.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Et l'actualité dans le reste du monde, le conflit au Yémen s'intensifie. La capitale Sanaa a subi avant l'aude les raids les plus violents depuis le début de cette offensive. Débutée il y a 6 jours, le pays semble être au bord de l'effondrement total. Le point avec Michel Joseph.
C'était horrible. De fortes explosions ont résonné toute la nuit, témoigne un habitant de Sanaa, cité par l'AFP. Ces bombardements d'une extrême violence se sont concentrés sur des positions de la garde républicaine. Ce corps armé, resté fidèle à l'ex-président Ali Abdallah Saleh, est aujourd'hui allié aux Houthis, les rebelles chiites pro-iraniens qui contrôlent de vastes régions du pays. Téhéran, au cœur des tensions diplomatiques nées de ce conflit, alors que Riyad accuse l'Iran de soutenir l'insurrection chiite. Les deux pays qui se renvoient la balle et se reprochent mutuellement de déstabiliser le Yémen. Le feu de la guerre poussera toute la région à jouer avec le feu. Les opérations militaires doivent s'arrêter immédiatement, estime le ministère iranien des Affaires étrangères. En attendant, les victimes s'accumulent. L'ONU compte des dizaines de civils tués au cours des 4 derniers jours.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous dans 20 minutes pour notre édition du soir, Le Monde Aujourd'hui, présenté par Morgane Guiriac et Idrissa Sedoudia. Bonne soirée à l'écoute de VOA Afrique.